Sans plus tarder, on va accueillir notre premier invité, puis c'est un invité que vous connaissez parce que c'est un habitué de l'avant-match avec Dan, c'est le collègue François Paquette qu'on joue au bout du fil. Salut François!
Salut Vez!
François, je me suis fait une liste de sujets, on va essayer de passer à travers le plus possible. On va commencer, évidemment, on n'a pas le choix, par le Canadien. La défaite d'hier, c'est catastrophique comme effet que ça peut avoir sur les fans du Canadien, ça n'a pas de sens.
Ah ben ça c'est le genre de match qui est très décevant à tout point de vue. Tu sais, au point de vue hockey, tu mènes 2-0 face à la pire équipe de la Ligue qui n'a pas gagné un match en temps régulier. Mm-hmm. Ça fait mal au cœur. Deux points que tu laisses partir parce que tu sais, je regardais le classement aujourd'hui, Vez, puis tu dis deux points, tu aurais gagné quelque chose comme 4 ou 5 rangs dans l'association Est. Donc c'est très psychologique de dire que tu sais, deux points que tu serais allé chercher, t'aurais mieux positionné, peut-être même juste pour une journée ou deux, mais je pense que ça aurait été très bon psychologiquement. Puis je pense que c'est le fait de que tu pouvais aussi revenir à une fiche de 500, évidemment en oubliant les défaites en prolongation ou en fusillade. En disant, ça aussi, c'est très psychologique.
Exact.
Donc je pense que tout ça mis dans le même panier, la réaction de Claude Julien après le match a été assez claire. Puis en tout cas, je ne sais pas si ça va lancer un message, mais à un moment donné, il n'y a pas juste le message. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait le talent en conséquence pour avoir des résultats, mais c'est sûr que comme résultat, c'est probablement le plus décevant de la saison pour le Canadien.
Tu as mentionné le mot « talent ». Ils ont joué un bon match contre Buffalo, puis ils ont gagné par la peau des dents. Buffalo étant le deuxième pire club de la Ligue nationale. Ils perdent contre l'Arizona. Est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas le choix. Il faut qu'on commence à parler d'évaluation de talent par la direction de l'équipe. Et les joueurs qu'on a amenés à Montréal, la mayonnaise ne lève pas, là.
Oui, bien, je pense que l'évaluation a commencé depuis un bon bout de temps pour certains joueurs très précis, puis même certains joueurs de talent. Sauf qu'à un moment donné, il va falloir aussi que le dossier de Carey Price se règle pour qu'on soit en mesure de mieux évaluer ce qui se passe. Évidemment, la grande question, puis personne n'a la réponse à ça, c'est quand il va revenir, de un, quand il va revenir, puis de deux, à quoi va ressembler Carey Price quand il va revenir. S'il revient en pleine santé, ben peut-être que le Canadien peut se positionner pour essayer de participer aux séries, mais évidemment, il ne faut pas que tu t'éloignes trop. Puis tu regardes aussi le calendrier, Vez, c'est qu'à un moment donné, tu dis des matchs à la maison contre Arizona, c'est des points qu'il faut que tu ailles chercher. Là, soudainement, tu as les Maple Leafs qui vont arriver possiblement avec un retour d'Austin Matthews, ou tu t'en vas la semaine prochaine à Dallas et à Nashville, deux soirées coup sur coup. C'est pas deux endroits où le Canadien a eu nécessairement beaucoup de succès dans les dernières années. Donc, c'est pour ça que des matchs comme celui d'hier soir et le fait que, bon, il faut que tu continues à aller chercher des points, même si ton gardien numéro un n'est pas là. À un moment donné, il va falloir qu'on ait la réponse au questionnement, savoir est-ce que Carey Price va revenir, comment ça va se passer à son retour, puis est-ce qu'on va pouvoir aussi faire taire toutes les rumeurs qui circulent concernant Carey Price. Je pense que ça aussi, ça va aider à mieux évaluer le Canadien de Montréal.
Ben, s'ils veulent faire taire les rumeurs, ils ont juste à être plus transparents.
Mais ça arrivera pas. Non seulement ça arrivera pas pour une blessure, mais s'il y a autre chose qu'une blessure, non plus. Puis tu sais, je pense qu'on l'a vécu. Tu vas te rappeler, Vez, de Jacques Demers qui avait dit que les colonnes du temple allaient être ébranlées dans les histoires avec les frères Costitine, puis tout ça. Puis tu sais, on n'a jamais trop su nécessairement c'était quoi le fond de l'histoire, parce que je pense qu'on a quand même une certaine protection qu'on a au niveau des joueurs puis de certaines choses qui ont été faites. Fait que tu sais, je pense qu'on essaie de mieux gérer la situation. Espérons dans le cas de Price que ce soit uniquement une blessure mineure comme le Canadien l'a annoncé. Mais comme tu mentionnes, quand il n'y a pas de transparence, ben ça fait en sorte que les rumeurs se propagent. Puis je peux te dire une chose, Vez, j'en ai entendu, je joue hockey dans quelques ligues, dans des vestiaires de hockey, puis j'entends toutes sortes de choses, mais espérons que ce soit dans son cas simplement une blessure mineure, puis que les choses vont se replacer à son retour.
Mais de toute façon, à Montréal, tu peux pas, tu sais, Carey Price n'est pas là, puis c'est parce que c'est pas la seule équipe dans la Ligue nationale où il y a des blessés, où il y a un blessé important, et puis il me semble qu'on les entend pas se plaindre, mais un tel n'est pas là. Steven Stamkos n'était pas là l'an dernier, il me semble que les Lightning, non, n'ont pas fait les séries, mais il me semble que ça n'a pas été leur seule excuse toute l'année.
Non, je suis d'accord avec toi, sauf que le problème qu'on a, je pense, avec Carey Price présentement, c'est qu'il y a deux choses. D'un, on vient de donner un contrat à très long terme, ce qui fait en sorte que tu viens de dire à tout le monde que c'est ton pilier, puis que c'est autour de lui qu'on va continuer à construire. Mais comme on s'est déjà questionné dans les dernières années, c'est que est-ce qu'on est capable de se dire, de se prouver présentement que Carey Price est un gardien de but, tu sais, top 3 de la Ligue nationale, qui va aller peut-être t'aider à aller chercher une Coupe Stanley? présentement, on n'a pas la réponse à ça. Puis je dis souvent, Vez, moi, je suis un grand défenseur de Carey Price. J'ai toujours aimé le gardien de but. Je trouve que c'est un gars aussi, l'homme, tu sais, qui est calme devant les médias. Puis c'est un gars, je pense qu'il a quand même une attitude assez bonne dans un marché aussi difficile que Montréal. Mais à un moment donné, ça devient difficile de le défendre, de dire oui, c'est vraiment un numéro un, parce qu'à part, tu sais, ce qui s'est passé avec l'équipe Canada aux Jeux Olympiques, il n'a jamais été en mesure d'amener le Canadien assez loin en série pour dire bon, ben, ça a été son année. Puis, tu sais, il manque quelque chose à son, à vraiment, à son CV. Puis, ça fait en sorte qu'on se dit le Canadien croit que c'est son gardien numéro un, croit qu'il vaut, tu sais, 10,5 millions par année. Puis, ça, c'est la job de Marc Bergevin d'évaluer ce gars-là. Mais dans la population en général, je pense que les gens sont très 50-50 à savoir est-ce que c'est vrai ou non que c'est le leader de cette équipe-là et le meilleur joueur. Puis présentement, non seulement il n'est pas capable de le prouver, mais il y aura certainement à le prouver très rapidement quand il va revenir au jeu.
Passons à un autre sujet, mais je pense qu'on va passer vite sur celui-là. Gary Bettman est à Montréal aujourd'hui dans le cadre d'une réunion des directeurs généraux. Il y a aussi les célébrations du 100e anniversaire de la Ligue nationale. Cette semaine, il y a eu dans les journaux un petit texte qui disait que le propriétaire des Rockets de Houston dans la NBA veut avoir une équipe de la Ligue nationale de hockey à Houston. Puis là, il y en a qui ont conclu tout de suite. Ah, Houston est passé en avant de Québec. Voyons donc, on peut-tu se calmer?
Je pense qu'on a aussi la gâchette assez facile là-dessus, parce qu'on a eu la même réaction quand on a parlé de Seattle dans les derniers mois. Souvent, les gens, puis écoute, je pense que c'est peut-être la logique parfois qui rattrape les gens qui veulent absolument le retour des Nordiques, c'est qu'on se dit, autant Seattle que Houston, ce serait le candidat idéal peut-être pour aller jouer dans l'autre conférence, puis ce qu'on recherche du côté de la Ligue nationale de hockey. Mais tu sais, Gary Bettman disait aujourd'hui, il y a rien là, présentement par rapport à l'expansion. Vegas, ça a déjà été assez complexe. On veut voir comment ça va se développer. Puis tout le monde a l'air un peu fatigué du processus puis de tout ce qui s'est passé. Donc, je pense qu'à partir de ce moment-là, c'est assez clair qu'on a des gros problèmes à régler dans notre propre cours avant de parler d'expansion. Tu sais, moi, honnêtement, une ligue à 31 équipes, je pensais pas qu'on allait voir ça. Habituellement, les expansions sont toujours faites à deux équipes pour avoir bon un nombre pair, puis c'est toujours plus facile. On l'a pas fait, mais là, tu dis, est-ce qu'on pense vraiment à une 32e équipe avant de régler ce qui se passe, écoute, en Arizona, en Caroline, puis on peut en nommer, là, il y a au dans moins Floride. 5 ou 6 endroits qui sont dans Floride. D'ailleurs, ça me fait penser, Dale Talon disait, aujourd'hui, lors des différents points de presse des DG, il dit parfois Marc Bergevin a plus de journalistes autour de lui que moi j'ai de fans autour de moi en Floride. C'était pas très gentil pour sa propre organisation, mais c'était quand même assez véridique où on comprend l'image qu'il voulait faire. Oui. Donc, tout ça pour dire que tu as au moins 5 ou 6 marchés qui sont vraiment dans le trouble, puis tu en as probablement pas loin d'une dizaine qui font pas d'argent ou qui perdent un petit peu d'argent. Donc, il faut régler nos problèmes avant de parler d'expansion. Mais on est habitué sur une chose, Vez, c'est qu'à chaque fois que Gary Bettman se pointe le bout du nez, il y a quelqu'un qui va lui poser une question sur les Nordiques, sur l'expansion. Je pense pas que la réponse va changer.
Non, c'est sûr. Mais la conclusion pour ce dossier-là, c'est gardons la flamme bien allumée. Parlons de baseball. François, cette semaine, on a fait connaître l'identité des joueurs par excellence au baseball majeur. Il n'y a pas de surprise là. Giancarlo Stanton de Miami et Jose Altuve de Houston. Il me semble que dans les résumés de bulletins de sport durant tout l'été, en fait, puis même jusqu'à il n'y a pas longtemps, à la fin de la Série mondiale, c'est à peu près juste ces deux noms-là qu'on attendait.
Oui, puis ce qui est bizarre, puis ce qui est un peu différent des deux ligues, c'est que tu regardes les deux, ceux qui ont fini les deux premiers dans la Ligue nationale, c'est-à-dire Stanton à Miami et Votto, qui est un Canadien à Cincinnati. Ce sont deux clubs qui ont fini quand même très loin d'une participation en série. Puis tu sais, on dit souvent, bon, le titre de joueur le plus utile, est-ce qu'il faut que ton équipe soit dans la course aux séries? Écoute, dans la Ligue nationale, on a dit non. Puis je pense que Stanton le méritait un petit peu plus que Votto, même si ça a été très serré. Mais, tu sais, c'est 59 circuits, 132 points produits, puis on a parlé beaucoup de lui, même si les Marlins ont connu une saison très, très, très difficile. Il risque, je pense que les chances sont très bonnes, c'est que Stanton joue ailleurs l'an prochain. Il y a beaucoup de rumeurs, entre autres, avec les Giants de San Francisco, avec les Cards de Saint-Louis. Ça, ce sera très intéressant de voir quel sera le prix à payer pour Stanton, parce que c'est un gars qui a un très, très, très gros contrat. Mais de l'autre côté, Altuve et Judge, écoute, on en a parlé pendant toute la saison. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus quand même assez loin en série, même dans un match numéro 7, ils se sont affrontés. J'ai pensé pendant un bout de temps, honnêtement, que Judge allait gagner. Mais quand on est revenu de la pause du match des Étoiles, il y a eu une séquence d'à peu près 5 ou 6 semaines où il était n'était pas capable de frapper un ballon de plage. Puis là, à un moment donné, les retro-bâtons s'accumulaient, sa moyenne a baissé de 60 points. Je pense que c'est là qu'il l'a perdu. Mais en bout de ligne, c'est une saison fantastique. Faut pas oublier que c'était une recrue. Mais je pense que Altuve était le joueur désigné parce que c'est un... faut jamais oublier que, tu sais, le joueur par excellence, c'est pas juste circuit point produit. Altuve va le début, frappe des doubles. C'est un très bon joueur défensif.
Ah, oui.
C'est le meilleur frappeur de coup sûr dans la Ligue depuis quelques années. Donc, je pense que c'était amplement mérité dans son cas.
Rob Manfred, le commissaire du baseball, a rappelé encore une fois cette semaine qu'il voulait réduire la durée des matchs de baseball, puis j'espère que ça va marcher, mais il me semble que c'est pas la première fois qu'on entend ça, puis il me semble que les matchs sont encore trop longs cet automne. Dans les séries, entre autres. Là.
Oh, les séries, c'est le plus bel exemple. Puis, tu sais, souvent, là, un match commence à 8 heures, qui se finit à minuit, minuit 30.
Non, ça n'a pas de sens. Là.
C'est manquer de respect pour les amateurs. Puis, je trouve ça dommage à un moment donné parce que les gens aiment le baseball, mais tu as une vie à travers tout ça. Tu travailles le lendemain matin. Tu as beaucoup de choses à gérer dans ta propre vie qu'à un moment donné, il faut que tu abandonnes parce que tu ne sais jamais quand est-ce que ça va finir. Mais je pense qu'il y a quelques petits détails qu'on va certainement regarder, comme la durée des pauses publicitaires, comme la visite du receveur au Monticule.
Ah,
je pense
que c'est ça
qui est devenu.
Il y a eu un match, là, c'est-tu le receveur des Astros qui est allé à peu près 62 fois voir son lanceur? Je pense qu'il était brûlé à la fin du match. Là,
à un moment donné, quand le gazon est usé entre le marbre puis le monticule, c'est une indication. Mais le problème qu'on a, c'est qu'on se dit, est-ce qu'on peut limiter ces rencontres-là? Parce que tu dis, si disons on a une limite, puis là, tu arrives en fin de huitième manche, il y a trois gars sur les buts, tu t'entends pas avec ton lanceur, il faut que tu puisses lui parler. Tu peux pas juste te parler par signaux. C'est le lancer le plus important de la saison. Donc, je pense qu'on va réussir certainement à réduire de quelques minutes, puis ça, c'est pas très difficile là, quand tu regardes tout ce qui se passe, mais en bout de ligne, tu sais, si on passe de 4 heures de moyenne à 3h45 en série, ce sera quand même un gain, mais je pense pas que, tu sais, des matchs en bas de 3 heures, on en a vu que très peu. Puis c'est très difficile dans la façon dont le baseball est fait. Il y a un charme qui vient avec ça, de te dire on n'a pas de cadran, mais je pense que le charme a une certaine limite à un moment donné.
Bien, il faudrait limiter le nombre de visites du receveur par manche, comme on le fait avec les instructeurs avant d'être obligé de changer le lanceur.
Ça va ressembler à ça, mais comme je te dis, c'est que si ton lanceur, tu sais, dans le moment le plus important du match, n'a plus le droit de recevoir la visite de son receveur...
Développe un système de signaux.
Peut-être qu'on pourrait limiter les limites au moins durant les 7 premières manches, puis se dire qu'en 8e ou 9e, on peut, tu sais, si c'est pas illimité, en rajouter quelques-unes. Il y aura certainement de grandes discussions, mais c'est toujours aussi d'avoir de chaque côté de la table les puristes du baseball, puis ceux qui veulent un peu révolutionner, comme on l'a fait avec la reprise vidéo.
Ouais.
Il y a du bon et du mauvais de chaque côté, puis c'est pas toujours facile de trouver un terrain d'entente.
Ben, on peut faire comme en Formule 1, mettre des oreillettes puis des micros dans le casque du receveur, puis une oreillette dans la casquette du lanceur. On est en 2017, après tout. Là.
En tout cas, il y a toutes sortes de choses de possibles, mais n'oublie pas que juste une montre Apple sur le banc des Red Sox a fait semer tout un émoi cet été.
Vrai.
Donc, pas trop d'objets électroniques, s'il vous plaît.
Exact. Ben, François, ça a été bien le fun. Il me restait plein de sujets, mais on fera ça une autre fois. Écoutez, on va ou bien autour d'une bière quelque part.
Il n'y a pas de problème, mon Vez.
Salut.
Salut, bonne soirée.
François Paquette, avec qui on parle chaque semaine dans l'avant-match. On s'arrête à reprendre notre souffle et on vous revient tout de suite après dans l'avant-match au FM 93.